应该是打高尔夫了。
On va les enfants, à bientôt.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses?
Bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt, et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Cette semaine, notre toile est assommée avec une infinie délicatesse, comme disait la célèbre régisseuse Marie Blanc à propos d'Après la tempête de Hirokazu Kore-eda. Marie qui est à mes côtés ce soir, ainsi que Meriel, bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, nous suivons le personnage de Ryota dans ce film, un écrivain ou plus exactement, un homme qui a publié un jour un livre, livre qui a été primé, mais se consacre depuis à de sordides tâches de détective privé, prétendument pour nourrir ses livres, mais on comprend bien que c'est un écrivain raté, qui passe le plus clair de son temps et la totalité de son argent dans le jeu, principalement aux courses cyclistes. Personnage qui a divorcé avec Kyoko, donc son ex-femme, qui a récupéré la garde de leur fils. Et justement, ces deux personnages vont se croiser, se retrouver autour du personnage du fils et puis de celui de la grand-mère de ce garçon pour ce tableau des fissures d'une famille et de ceux qui la composent. Avant d'aller plus loin dans la description de ce film finalement assez délicat, qu'est-ce que vous en avez pensé, Meriel, Marie ?
Mais moi, j'ai été très surprise par ce film parce que j'avais vu quelques autres films de Kore-eda, notamment I Wish et Nobody Knows. Et tous ces films, c'est un peu comme des contes. Et ici, tout à coup, c'est un conte pour adultes, d'une certaine façon, beaucoup plus sérieux. Et ça m'a un peu perdue, mais en fin de compte, je l'ai beaucoup aimé.
Alors moi, je n'avais jamais vu avant. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai été transportée et je suis partie d'un état de légèreté et je suis sortie un petit peu assommée, exactement. Et je me suis laissée porter.
Eh bien, c'est un petit peu pareil. Alors, j'avais vu un de ces films, Tel père, tel fils, qui avait été assez salué il y a 3 ans, je pense. Et en effet, c'est un film qui fonctionne très, très bien, qui fait montre d'une grande maturité, je trouve. Et oui, ça marche bien, comme tu dis, Marie. Le film impose son rythme, rythme qui peut paraître un petit peu effrayant dans la première partie du film, parce que justement, c'est quand même très très lent, très très mécanique. Et puis petit à petit, on s'y fait. Et ça marche vraiment très très bien. Et on pourrait peut-être justement commencer par ça, sur le fait que, alors, gros non-spoiler, chers auditeurs, il n'y a pas de drame. Il y a ce typhon, cette tempête qui fait se regrouper chez la grand-mère, eh bien, le père, la mère divorcée et le fils. Et puis il ne s'y passe à proprement parler rien. Mais ça ne dérange pas, ça ne pose pas de problème, parce que sous cette absence totale d'événements, de choses spectaculaires, le moindre petit tressaillement devient une véritable secousse, ou en tout cas une secousse émotionnelle pour nous.
Oui, le mot de secousse est très bien trouvé, je trouve, en bref.
Au Japon.
Non, mais aussi parce que c'est comme une sorte de grand tableau où parfois même il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des sortes de blagues privées où on n'a aucune idée à quoi ils font référence, mais ça fait rire les personnages. On se dit, bon, ils sont dans leur bulle, très bien. Et puis, parfois, tout à coup, il y a ces secousses qui remontent à la surface et où on se dit, mais waouh, le... Très bien, pardon. Où tout à coup, quelque chose émerge d'une situation qui a l'air tout à fait banale et où on se rend compte que tout est tendu et tout est sur le point d'exploser et en fait de se résoudre peut-être.
Oui, même derrière chaque personnage, on se rend compte qu'il y a une fissure possible, un craquement. Même tous les personnages, même ceux qui peuvent paraître plus ou moins décoratifs, entre guillemets, les collègues de travail, par exemple, du père, tous se complexifient, mais d'une façon presque insinueuse, sans qu'on s'en rende compte. Chaque personnage devient à plein de facettes différentes, une profondeur. Et presque chaque personnage, on a envie de connaître encore plus et d'explorer un peu leur identité. Et ça se fait d'une façon, je trouve, vraiment super délicate, sans qu'on s'en rende compte, sans forcing en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment cueillie, même je dirais, quand j'ai vu le film.
Et à côté de ça, il y a ce personnage du père, quand on liste un petit peu, il en tient une couche, quoi. Je veux dire, il est joueur, ruiné, il vole un petit peu tout le monde, il fait plus ou moins du chantage affectif à son fils et à son ex-femme, c'est un écrivain raté, il fait pas grand-chose dans la vie, il arnaque ses clients, il arnaque son patron, enfin, ça commence à faire beaucoup. Et malgré tout, il est rendu très très sympathique. Et oui, ça n'atteint pas le stade d'élément de scénario. Le scénario en soi est vraiment très 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 dépouillé et ça nous amène à cette espèce de sentiment d'absolu qui est apporté par le typhon aussi, où là d'un coup, cette espèce de déchaînement dans lequel ces personnages se retrouvent. Alors, un déchaînement au sein duquel ils se retrouvent à chercher des petits billets de loterie dans la nature. Et ce à quoi je voulais venir, c'est aussi l'humour avec lequel ils sont dépeints. Parce qu'il y a le personnage de la grand-mère que tu affectionnes particulièrement,
j'adore
Marie.
J'adore ce personnage.
Mais il y a cet humour à la fois très candide et très, très cruel avec ces personnages. On a un certain nombre de scènes qui sont des scènes de vaudeville. Le mari qui regarde avec des jumelles sa femme avec son amant. Et ça nous donne envie de sourire. Et à l'inverse, il y a des scènes qui nous font véritablement rire, mais où là aussi, c'est ces personnages qui ont quelque chose d'assez misérable, d'assez, toujours un arrière-goût très triste.
Oui, parce que le décor, c'est une barre de HLM dans la banlieue de Tokyo. Et c'est un monde plein de grisailles et qui est dans une sorte d'éternel ressassement un peu triste. Et pourtant, les personnages, tu as raison de parler du père, parce qu'il est extrêmement touchant. Et aussi parce que c'est une sorte de grand enfant. Il est très grand en taille, tout le monde le fait remarquer. Même les cadres le font remarquer. Parfois, il sort du cadre et on est là, mais non. Et puis, il a ses réactions, vraiment, il ne sait pas. Il faut toujours qu'on s'occupe de lui, dit sa mère. Et puis, son ex-femme est d'accord. Et dans ce monde extrêmement gris, tout d'un coup, peut-être que la seule solution, c'est de se mettre à jouer. La grand-mère joue tout le temps, le fils joue tout le temps. Et après, le jeu, parfois, c'est une répétition de ce qui se faisait. Donc, par exemple, pendant la tempête, il y a un jeu entre le père et le fils qui rejoue ce qui s'était passé quand le père était enfant.
Oui, même il reprend son bain dans la baignoire, dans la petite baignoire où il est maintenant immense par rapport à la baignoire. Enfin, il y a quelque chose... Cet homme, il est touchant aussi parce qu'il a du mal à grandir, mais c'est pas du tout caricatural, c'est vraiment très juste. Moi, c'est des thèmes pour lesquels je suis super bon public, vraiment, le passage du temps, blablabla. Mais parfois, c'est très cliché, et là, c'était vraiment pas le cas. Et tu parlais aussi, Marielle, de la barre de HLM, et je trouve qu'il y a vraiment une forme de géographie presque du film, très intéressante aussi. On est toujours dans ces intérieurs japonais minuscules, où le moindre centimètre carré est exploité. On a très peu d'horizon, en fait, on voit jamais de paysage d'horizon. Et on est dans ces petites vies qui se croisent, mais c'est pas non plus si pessimiste. Enfin, je sais pas, moi je l'ai pas senti comme ça non plus, parce qu'ils sont pas... Ils ne sont pas non plus condamnés, ils ont chacun. Ils ne sont pas condamnés dans un cliché, sur une étiquette. Et même la sœur, on a l'impression qu'elle méprise totalement son frère, on a l'impression que c'est plus complexe que ça. Elle n'est pas seulement la grande sœur qui, elle, a bien compris comment ça marche dans la vie. Elle est aussi touchée par son destin, je pense.
Et puis, elle est aussi perdue. Mais je pense que tu as raison, ce n'est pas un film pessimiste, mais en fait, je me suis rendu compte que. Dans I Wish, le clou du film, c'est deux enfants qui se disent, tu sais, quand deux trains se croisent, un miracle arrive. Et là, il y a une image au début du film où deux trains, justement, se croisent, mais en courbe, et du coup, ratent le miracle, d'une certaine façon. Et c'est un film un peu sur ça, et qui est très fort aussi, parce que tout à coup, il est plus sérieux que de juste se dire, il y aura un miracle à la fin.
Alors, vous dites toutes les deux que ce n'est pas un film pessimiste. Je dirais sans hésiter que ce n'est pas un film méprisant, que ce n'est pas un film où on montre ces personnages comme des espèces de petits cafards humains. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très, très pessimiste dans toute la vision que ça propose. Mais alors, après la tempête, la tempête, c'est bien la fissure de cette famille. C'est ce divorce et tout ce qui l'implique. C'est aussi la mort du père, du grand-père, du coup. Il y a cette espèce de tempête où on est censé être après elle, mais on ne s'en rend pas vraiment compte. Et puis, les typhons qui je dis bien les typhons en fait, qui parce que justement gênes, c'est le 24e de l'année, ouais. Et on a l'impression que finalement la tempête peut ressembler à un désastre pour l'individu, mais cette espèce de succession de tempêtes un petit peu lancinante où finalement les préoccupations de ces gens sont un petit peu étouffées aussi par l'arrivée de ce typhon assez grandiose. Ces personnages se retrouvent quand même tous très très seuls à la fin. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une solitude de ces personnages qui arrivent à se retrouver dans quelques éclairs, par exemple dans ce toboggan au milieu de la nuit. C'est une scène très très belle, mais on se met à leur hauteur démesurée d'enfants qui ont trop grandi. Mais c'est pas d'un optimisme fondamental, c'est quand même assez triste. Enfin, quand les Inrocks écrivent que c'est un feel good movie, je dis non. Et c'est quand même un film qui nous rappelle un petit peu à notre gentille condition de d'être humain dont la vie est faite de compromis, de compromissions du coup, et qui nous montre en train de vivoter, qui nous montre assis à côté d'un idéal dont on sait qu'il n'est pas atteint, parce que sa femme a décidé de se mettre avec quelqu'un qui avait sans doute bien mieux réussi socialement, parce qu'il y a un moment où il faut penser à ses conditions matérielles, etc. Et il y a quelque chose d'assez désespérant quand même, je trouve, dans ce constat que le film fait en filigrane.
Oui, bien sûr, mais d'une certaine façon, c'est aussi un film sans illusion. Et là-dessus, moi, j'ai beaucoup apprécié. Mais là où, moi, je pense qu'il n'est pas fondamentalement pessimiste, c'est que c'est un monde d'où le rituel a complètement disparu. Et tout à coup, il y a des choses qui ont de la valeur qui ressurgissent. Et il y a ces plans autour de l'encens ou autour de l'encrier du père, on n'en dit pas plus, mais où tout à coup, quelque chose, un vrai sens ressurgit. Et oui, c'est pas du tout un feel good movie. Enfin, c'est quelque chose où
Les miettes sont belles, mais il faut picorer des miettes.
Oui, mais les miettes rappellent autre chose. Tu vois, quelque chose de plus vaste, où tout à coup, peut-être que, je sais pas.
Oui, mais moi j'ai beaucoup, par exemple, les scènes de repas, des choses qui se passent comme ça, anodines, mais en fait, mais qui regroupaient tout le monde et qui faisait cette petite étincelle, comme tu dis, à ces petits moments.
Bien, on vous laissera, chers auditeurs, décider si c'est un film pessimiste ou pas, fondamentalement optimiste. Je pense que personne n'ira jusque-là. Et c'est tout de suite l'heure de retrouver Pierre, notre sérivore.
Ted, suit up!
Lana. Lana. Lana.
Lana!
What?
Danger zone.
Say my name. Eisenberg. You're goddamn right.
Cool. Boy, these pretzels are making me thirsty.
While my days are not taking you seriously, they're certainly coming to a middle.
Plata o plomo.
Democracy is so overrated. Office.
Winter is coming.
Alors bonjour à vous tous du plateau, de la régie, à ceux qui font la cuisine en nous écoutant, bisous, ainsi bien sûr qu'à tous les sérivores. Tout d'abord, je tiens à dire que la saison 8 d'Archer, qui est en cours de diffusion, est vraiment géniale. L'univers noir des années 40 est parfaitement retranscrit, avec des clins d'œil fort amusants. Les personnages s'intègrent parfaitement à cet univers déjà titillé dans la saison 7. C'est même assez frais de voir chaque personnage adopter un rôle différent dans l'histoire et une recomposition totale des relations entre les personnages, toujours dans l'esprit d'Archer bien sûr. Je vous invite donc à courir regarder les 7 saisons disponibles sur Netflix avant de vous plonger comme moi dans la 8 et d'aller écouter un des premiers numéros de Sérivore dans lequel je parle déjà de cette série que j'aime tant. Mais maintenant, penchons-nous sur les 2 séries principales de cet épisode, dont une dont je porte le t-shirt actuellement, mais bien sûr, c'est la radio. Tant pis pour vous. Voilà. Je vais vous parler de web-séries disponibles sur YouTube et Dailymotion. Et oui, le YouTube européen, je tiens à le rappeler, ça existe quand même, ça existe toujours. Allez-y de temps en temps. Et oui, cette semaine, on se penche sur quelque chose de bien particulier avec Crost et Chroma. Alors, que sont Crost et Chroma, du coup ? Eh bien, ce sont 2 séries de critiques cinématographiques portées par un trio décapant, délirant, génial, parfait, quoi, Karim Debbache, Gilles Stella et Jérémy Morvan. Ce sont trois amis parisiens qui ont été financés par jeuxvideo.com en 2014 pour faire une série de chroniques de films, de critiques de films, un peu comme d'étoiles plein les yeux, mais en beaucoup plus drôle, désolé Rémi, adapté de jeux vidéo ou se concentrant sur l'univers des jeux vidéo. C'est ainsi qu'est né Crust, une émission de 28 épisodes d'une vingtaine de minutes chacun. Ce sont très souvent de mauvais films qui sont à l'honneur, ce qui a permis au trio de développer un univers décalé, rempli de références, de jeux de mots, de petits sketchs divers et variés, à l'instar d'un épisode oscillant entre critique de films et mockumentary sur la création de la série même. L'humour est donc extrêmement présent et participe au ton général de la série. Mais ce qui en fait à mes yeux une série vraiment bien foutue, c'est que Karim Debbache parvient à glisser entre les blagues qui font mouche de véritables critiques fondées sur ce qui fait le cinéma et les jeux vidéo. Il parvient à mettre en lien ces deux univers à travers un regard croisé, à travers un regard presque universitaire. Il s'appuie d'ailleurs régulièrement sur des ouvrages sociologiques croisés avec de l'absurde et de la mauvaise foi. Son avis est souvent tranché, c'est d'ailleurs ce qui peut lui être reproché, mais il étaye bien et prend vraiment la défense de la culture geek, souvent mise à mal par les sociétés de production qui veulent surfer sur la popularité de tel ou tel jeu. Le fait d'avoir ajouté des sketchs supplémentaires sous forme de chansons, souvent, permet de créer un véritable attachement aux personnages créés autour du trio, avec aussi Kamel Debbache, le double maléfique de Karim Debbache, joué par Karim Debbache, qui sert donc à apporter des contre-arguments en défendant les mauvais films ou simplement en faisant œuvre d'une mauvaise foi totale. J'ajouterai aussi à l'humour et l'intelligence une véritable connaissance de l'art cinématographique, qui s'intègre parfaitement dans leur format pour Crust et qui va devenir centrale à la deuxième série, Chroma, dont je parle juste après. Le trio fait preuve d'une inventivité mais assez particulière, mais aussi d'un savoir-faire technique remarquable. Je ne l'ai jamais ressenti avec des séries ou même des web-séries, mais dans Crust, le montage même ressort dans mon esprit comme un outil à part entière. Le fait de devoir intégrer des extraits des films dans une critique peut donner lieu à des facilités, qui se révèlent bien souvent de manière négative. Mais là, on ne s'en rend pas forcément compte. Par divers petits détournements, les extraits sont totalement intégrés à la narration. Ces différents aspects ont fait la renommée de l'équipe sur internet à tel point qu'il y a 2 ans, ils ont lancé un crowdfunding pour lancer une nouvelle série indépendante. Ils ont récolté pas moins de 1030% de leur but de départ, oui, alors qu'ils voulaient 40 000 euros, ils se retrouvent avec 200 000 euros. Ils ont donc investi dans plus de matériel pour nous offrir une série dont on attend impatiemment le dernier épisode, Chroma. Reprenant le principe de Crust, Chroma est une émission de critique cinématographique. Déjà, Chroma se concentre sur les films en général, de Highlander à Troll 2 en passant même par Les Affranchis, et puis elle intègre une trame narrative qui se met en place tout au long des 12 épisodes. En effet, Chroma est véritablement une série et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc c'est un peu compliqué de vous parler de l'histoire, surtout qu'on me dit qu'il faut absolument que je me taise, c'est vous dire à quel point c'est génial. Donc je vous invite à vous plonger dans l'univers de Karim Debbache, de Gilles Stella et de Jérémy Morvan qui vont à leur tour vous faire découvrir des merveilles, des nanars et surtout des blagues tordantes. Je leur accorde sans aucun souci 19 grands classiques du cinéma pour 20 nanars nazis sadomaso en Sibérie.
Merci beaucoup Pierre pour ce sprint et juste avant de se quitter, deux toutes petites suggestions de sortie. Bon, j'ai menti, hein. Deux, c'était façon de parler. Je vous rappelle la sortie de I Am Not Your Negro de Raoul Peck, le documentaire événement qu'il faut vraiment absolument aller voir. Également, en termes de documentaire, les 12e panoramas des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient se tiennent actuellement au cinéma Lumière Bellecour et je vous invite de même à aller voir des films qui ne passeront pas à d'autres moments en salle. C'est l'occasion de voir du très beau documentaire. Côté vieux films maintenant, parce que c'est important, Rivière sans retour pour les amateurs de western est projeté au cinéma Le Cinéma dans le premier. Pour ceux qui sont sur la presqu'île, ça peut valoir le coup, c'est Otto Preminger. Quand même. Et puis Casque d'or, hein, le chef-d'œuvre de Jean Becker, au Comédia ainsi qu'au Zola de Villeurbanne. Quant à la rétrospective Claudia Carnidal de l'Institut Lumière, elle se poursuit toujours avec, je vous le rappelle, lundi une conférence suivie de Sandra de Luchino Visconti et puis Marie pourra témoigner. C'est très très bien, il faut aller voir 8h30 à l'Institut Lumière ce week-end. C'est un véritable chef-d'œuvre total, nous y étions hier soir et c'est vraiment un film à ne manquer sous aucun prétexte. Si avec ça vous n'y allez pas, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, d'étoiles plein les yeux, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour le cinéma, nous avions Rémi Serda, Marie Blanc, Marielle Kenley et pour les séries, Pierre Lemoël, à la régie Aurore Sasportes, Marie Lécuyer. On se retrouve la semaine prochaine sur Transistor.
Marie, Sarah, Pierre. Et avant de parler sociologie sur Transistor, c'est l'heure de l'info avec Mathias.
La principale information de ce jeudi 11 mai, c'est La République En Marche qui a dévoilé les noms des 428 candidats aux élections législatives. Pas la totalité de toutes les circonscriptions, mais le parti de d'Emmanuel Macron n'a pas investi Manuel Valls, mais le mouvement ne présentera pas de candidat face à lui dans sa circonscription de l'Essonne. À gauche maintenant, le programme du Parti Socialiste a gommé un certain nombre de propositions du candidat à la présidentielle Benoît Hamon, notamment le très connu revenu universel. Benoît Hamon qui déclarait hier vouloir monter un nouveau mouvement politique. À l'international maintenant, Donald Trump est largement chahuté actuellement dans ce que certains prédisent comme un futur Watergate après le limogeage du patron du FBI. En Allemagne, autre scandale, celui du Watergate. L'entreprise Volkswagen a refusé de publier l'enquête interne concernant ses moteurs diesel truqués pour convenir aux normes environnementales. Et en Israël, au Proche-Orient, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a décidé de stopper les chaînes de télé et de radio d'État à la place de l'institution. Une nouvelle structure est censée prendre l'antenne à partir de lundi sans diffuser d'informations. Et c'est tout pour l'information. Maintenant, je vous laisse en compagnie de Maëlys et de Robin pour parler sociologie dans une toute nouvelle émission. Socioscopie.
Merci Mathias.
Merci Mathias.